non, il y a une vie après Normal.
Bonjour à tous et bienvenue dans un numéro de Il y a une vie après Normal, dans un nouveau numéro de Il y a une vie après Normal. Pour cette édition de la journée de la radio, on a décidé de vous emmener dans les coulisses de l'émission en quelque sorte et d'orchestrer cette émission autour de l'Association des Anciens, qui est notre partenaire, car oui, on bosse dur sur nos émissions et on passe des heures à fouiller l'annuaire à la recherche d'invités au parcours passionnant pour vous les présenter. Et tout ça grâce à l'Association des Anciens. Donc on a donc aujourd'hui avec nous un membre actif de l'association, donc c'est Gilles Gotland, trésorier de l'association. Bonjour monsieur Gotland.
Pouvez-vous parler dans votre micro, s'il vous plaît? Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureuse de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Alors, l'Association des Anciens, comme son nom l'indique, a pour vocation de regrouper les anciens élèves de l'ENS de Lyon, anciennement Fontenay-Saint-Cloud et Fontenay-Saint-Cloud. Mais à partir de quand est-ce qu'on a un ancien de l'ENS exactement? À partir de quand est-ce qu'on peut adhérer, par exemple?
Alors, adhérer, il faut bien distinguer si on paye sa cotisation ou pas. Moi, je parle comme ça parce que je suis trésorier. Donc. Mais un jeune, par exemple, qui est élève, peut tout à fait rentrer à l'association. Il suffit d'en faire la demande. À ce moment-là, on vous crée une fiche et votre fiche, elle est intégrée dans l'annuaire électronique.
D'accord.
Et quand on tire un annuaire papier, ça dépend un peu de l'état de santé de notre annuaire électronique et des finances aussi. Mais quand on tire un annuaire papier, je pense que le dernier qu'on a dû tirer remonte à 2010-2011.
2011, je crois. Celui 2011. Qu'on utilise, c'est 2011.
Mais, ouais, mais l'annuaire électronique, lui, est plus à jour que l'annuaire papier. Et votre fiche, si vous êtes élève, je ne sais pas si on dit élève. Oui, élève.
Oui, oui.
À ce moment-là, donc, votre fiche est intégrée dans l'annuaire.
D'accord.
Et la première année, vous n'avez pas à payer de cotisation.
Adhérer à l'Association des Anciens.
Donc, c'est très intéressant pour vous de venir à l'association.
Okay.
Par contre, en revanche, la deuxième année, vous demandera de payer 20 euros.
Et donc, concrètement, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus du fonctionnement de l'association et de tous ces petits détails pas très glamour? En gros, est-ce qu'il faut renouveler son inscription tous les ans? Il faut envoyer un mail? Comment ça?
Non, il faut envoyer un chèque.
Ah.
N'oubliez pas. Ouais.
Donc, en général, les chèques, c'est moi qui les reçois, d'ailleurs.
D'accord.
Et vous avez un tarif. Donc, c'est 20 euros pour les jeunes, sauf
D'accord.
la première année.
OK.
45 euros pour les
anciens.
Les anciens, ceux qui sont sortis de l'école, qui ont très bien réussi, d'ailleurs, en général, et qui sont actifs. 40 euros pour les retraités.
D'accord. Il faut être adhérent pour paraître dans l'annuaire?
Oui.
S'il faut être adhérent. Oui, mais alors attendez. Adhérent, donc je viens de vous dire.
Je vais essayer d'être plus attentive.
Oui, non, mais adhérent, la première année, elle est gratuite.
D'accord.
Mais vous êtes, on peut dire, vous êtes adhérent.
Oui, oui. Bien
sûr. Et vous figurez dans l'annuaire pour répondre à votre question.
D'accord.
En revanche, à partir de la deuxième année, je pense qu'il faut payer 20 euros.
D'accord,
c'est pas beaucoup.
Non, ça, c'est raisonnable. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et il n'y a pas de différence au niveau des tarifs entre auditeurs et normaliens, par exemple, ou...
Non. Alors, les auditeurs, aujourd'hui, dans l'association, il y a surtout des normaliens.
D'accord.
Il y a beaucoup, beaucoup de normaliens et assez peu d'auditeurs. Pour une raison assez simple. Alors, je parle sous le contrôle de Aurore, hein, bien sûr.
Oui, bien sûr. Aurore Hützler, qui est la vice-présidente.
Oui, qui aurait dû être là à ma place et qui...
Bisous, Aurore.
Oui, qui est à Marseille. Elle m'a dit qu'elle m'écouterait. Je lui ai interdit de le faire.
Elle vous surveille, hein.
Oui,
gaffe.
Mais je lui ai interdit de le faire. Mais, alors, je ne sais pas si elle m'a autorisé ou pas à dire ça, mais aujourd'hui, nous n'avons pas... Autant nous avons beaucoup de normaliens... Et nous avons accès aux différentes promotions
ouais.
des normaliens. Autant nous n'avons pas encore accès aux promotions des auditeurs, en fait.
D'accord.
Et d'ailleurs, au passage, on ne dit plus auditeur, je crois.
Ah bon?
Non.
Oui. Qu'est-ce qu'on dit alors?
Élève, ouais.
Alors, il y a tout un vocabulaire. Les normaliens sont des élèves.
D'accord.
Et les auditeurs sont des étudiants, je crois.
D'accord.
Bah, c'est une première. Enfin, je suis pas au courant. Mais
alors moi-même, je suis étudiant.
D'accord.
Je n'ai pas jamais été normalien.
On arrivera à votre cas plus tard.
Non,
ne
non,
vous inquiétez
alors,
pas.
Sûrement pas, parce que moi, je suis pas du tout un exemple.
Et alors moi, j'avais une question aussi. Enfin, concrètement, l'élection du bureau de l'association, ça se passe comment? Parce que j'ai l'impression que tous les anciens sont à droite, à gauche, en France ou dans le monde.
Est-ce alors, que... d'ailleurs, ce serait très bien que vous rentriez à l'association pour apporter un peu de sang neuf, de dynamisme. L'association est toujours à la recherche de jeunes talents.
On est très dynamique avec Maëlys.
Oui, mais bien sûr, c'est pour ça que je vous regarde.
Non, mais...
Et donc, comment ça se passe? Tous ceux qui sont dans l'annuaire ont le droit de voter.
D'accord.
Je crois que le conseil d'administration et le bureau sont composés de 24 adhérents.
D'accord.
Et donc, on leur demande de faire une profession de foi.
D'accord.
Ah oui, c'est du sérieux.
C'est très sérieux. Et une profession de foi, c'est-à-dire le candidat s'engage devant ses pairs, en quelque sorte, d'où un certain esprit de corps, déjà, à faire un certain nombre de choses dans l'association. Bénévolement, bien entendu. Hein.
D'accord. Donc, à se mobiliser
voilà.
Pour...
Alors après, donc, il y a un vote. Le vote, donc, il y a des bulletins de vote.
D'accord.
Et ces bulletins de vote sont dépouillés. Alors, combien il y a de votants? Dans l'annuaire, il y a à peu près 750 adhérents aujourd'hui.
D'accord.
Je le sais parce que
ceux
qui ne sont pas adhérents...
Vous avez reçu 750 chèques?
Pardon?
Parce que vous avez reçu 750 chèques? Non, c'est pas pour ça?
Si.
D'accord.
Et donc, ceux qui ont envoyé leurs chèques ont droit à un bulletin qui leur est envoyé. Parce qu'en plus de l'annuaire, vous avez droit à un bulletin.
D'accord.
Qui vous donne un certain nombre d'informations sur le fonctionnement de l'association, et avec des articles très intéressants.
D'accord.
J'en doute pas.
Avec ouais, les projets de l'année, ce genre de choses.
Oui, puis même des sujets à thème.
À thème, d'accord.
Oui, tout à fait. Hein.
Donc c'est presque un petit journal. Enfin, c'est un bulletin, c'est une brochure.
Oui, absolument.
D'accord. Et moi, j'avais juste une question tout à l'heure. Enfin, vous
mais je n'ai pas terminé sur le...
Ah, bon.
Oui.
Ah.
Donc, sur 750, il y a à peu près 160 bulletins de vote qui arrivent.
D'accord.
Votants.
Ouais.
Qui sont dépouillés et les gens s'expriment à partir des professions de foi qu'ils ont lues dans le bulletin précédent.
D'accord. Et moi, du coup, j'avais
après,
juste...
Après, on élit un bureau... Il y a une deuxième réunion qui est faite et ouais, enfin, bon,
et les gens sont élus,
non? Non, le bureau émerge à ce moment-là.
D'accord.
Et le bureau élit son président ou sa présidente.
D'accord. Et moi, je voulais juste revenir aussi sur le fait que vous avez dit qu'il y avait beaucoup plus de normaliens, entre guillemets, qui s'investissent dans l'association et moins d'étudiants. Est-ce que ça, on sait pourquoi? Ou est-ce que les étudiants se sentent moins intégrés à l'école ou...
Écoutez, aujourd'hui, lorsqu'on prend les effectifs de l'ENS,
ouais.
Vous avez à peu près, enfin, je ne sais pas, mais d'après mes informations, hein, mais qui sont peut-être fausses, vous avez la moitié d'étudiants et la moitié de non-étudiants.
D'accord.
Qui sont pris sur dossier. L'association ne reflète pas du tout, ou très peu, cela. C'est-à-dire que l'association est surtout une association de normaliens dans lequel vous retrouvez beaucoup de professeurs, agrégés, docteurs souvent, et aussi de gens qui ont fait l'école normale comme normaliens et qu'on retrouve dans les grandes institutions publiques.
D'accord.
On va maintenant parler d'une activité essentielle de l'association, qui est le parrainage.
Ah oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs, à nos spectateurs, en quoi est-ce que le parrainage que propose l'association des anciens consiste? En quoi est-ce qu'elle consiste?
Oui. Alors, je vous en parlais. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site, qui est très bien fait.
D'accord.
Et sur lequel vous avez un onglet qui s'appelle « Parrainage ». Et vous verrez qu'il y a deux aspects. Il y a le parrain et le parrainé, le filleul.
D'accord.
Donc tout le monde peut à la fois postuler, en quelque sorte, comme parrain ou comme filleul. Le vrai parrainage, donc, en fait, le but du parrainage, c'est d'aider. Bon, on appellerait ça un peu un coach. C'est de coacher, on pourrait dire, un filleul, de manière à l'aider à voir clair dans ses projets professionnels, son CV. Lorsqu'il travaille et qu'il est actif, de lui donner une opportunité de venir, j'allais dire in situ, dans la société dans laquelle il se trouve. Il est possible aussi que le parrain procure des stages. Ah. Ça nous est arrivé plusieurs fois.
D'accord.
Notez bien pour ceux qui sont à la recherche
des stages.
Stages, bien sûr.
L'association des anciens peut être une ressource vraiment précieuse.
Bien sûr. Bien sûr.
Avec Maëlys, on a remarqué qu'il y avait plus de parrains, scientifiques ou issus de filières scientifiques,
oui,
qu'issus de filières littéraires.
Ben oui.
Et pourquoi? Enfin, c'est du hasard.
C'est une question que je vous pose. Pourquoi?
Je ne sais pas.
Oui, mais je veux dire, il y a une demande qui est peut-être plus forte de la part des filleuls aussi scientifiques que littéraires.
C'est vrai qu'ils ont des stages obligatoires à faire.
Oui, donc il y a une question peut-être d'ancienneté aussi. Hein, c'est-à-dire, l'école, j'allais dire, scientifique de l'ENS est plus ancienne, je crois, que l'école lettres, en fait.
À Lyon, oui, en tout cas.
À Lyon, je parle.
Elle s'est implantée ici 15 ans avant.
Oui, voilà. Donc, ça peut expliquer ça.
D'accord.
Mais, j'allais dire, c'est peut-être en lettres et toutes les sciences humaines et sociales, peut-être qu'il y a un véritable besoin, parce que c'est peut-être là où peut-être que le projet professionnel est le plus difficile à appréhender.
Très bien.
Qu'en pensez-vous?
Je pense que issus des filières scientifiques, il y a plus de parrains qui peuvent proposer des stages dans des entreprises,
oui,
alors que je pense que dans les filières littéraires,
c'est les gens plus académiques.
Oui, en général, c'est plus dans les gens sont de manière majoritaire, disons, dans l'enseignement ou la recherche, où là, on peut pas vraiment proposer.
Moi, je suis d'un avis un petit peu différent du vôtre, c'est-à-dire, je pense que l'ENS littéraire offre énormément d'opportunités dans les entreprises.
De plus en plus, en tout cas, oui.
C'est dommage de ne pas en profiter.
D'accord.
Mais l'Association des Anciens, donc, essaie de relancer ces opportunités.
Oui.
Ben, l'Association des Anciens, je vous encourage d'ailleurs à rejoindre l'Association des Anciens et d'être extrêmement active dans l'Association des Anciens, peut-être pour promouvoir cet aspect-là.
Et alors concrètement, un élève qui cherche un parrain ou une marraine ou qui souhaite devenir parrain ou...
C'est très simple.
On envoie un mail?
Eh bien écoutez, on a un site qui est assez bien fait.
D'accord.
Qui vient d'être refait d'ailleurs, sur lequel vous avez un certain nombre d'onglets. Et le quatrième onglet s'appelle parrainage.
Parrainage, d'accord.
Vous cliquez dessus et vous verrez, donc il y a deux boutons. Il y a un bouton parrain et un bouton filleul.
D'accord.
Donc
il ne faut pas se tromper.
Non. Un parrain peut, j'allais dire, postuler. Alors après, évidemment, sa candidature est revue parce qu'il y a des standards de qualité qui sont attachés à sa candidature, bien sûr.
D'accord.
J'allais dire, il n'est pas question de brader, en quelque sorte, le logo de parrain comme ça. Et il y a aussi un onglet filleul, et un filleul peut postuler pour faire une demande de parrainage, pour être parrainé.
Merci pour ces précisions.
J'avais juste une toute dernière question en fait sur l'annuaire. Est-ce qu'un élève a le droit de vous contacter pour contacter l'association des anciens, pardon, un élève qui chercherait à entrer en contact avec quelqu'un qui est dans l'annuaire, mais dont il n'aurait pas les coordonnées?
Bien sûr.
Est-ce que voilà.
Écoutez, il vaut mieux qu'il soit adhérent, qu'il ait sa fiche et tout, hein, qu'il soit les autres cotisations. Mais en admettant, un jeune n'a pas forcément beaucoup d'argent. Hein.
Oui.
Vous le savez. Et si quelqu'un, je pense, demande à être en contact avec un ancien, je ne crois pas qu'on puisse vous refuser d'avoir cet accès.
Bon, je pense qu'on a encore le temps pour deux questions avant de passer à un petit jeu. Alors, la première, ce serait... depuis que je suis arrivée à l'ENS, j'entends beaucoup de gens dire qu'à l'ENS, il n'y a pas d'esprit de corps, ou en tout cas qu'il est moindre que dans d'autres écoles. J'ai entendu parler, par exemple, de la secte des polytechniciens. Alors, à votre avis, à quoi c'est dû? Et je sais que l'Association des anciens essaie de, justement, de pallier à cela. Voilà.
Bah, à quoi c'est dû? Je ne sais pas. Je trouve que le mot secte est peut-être un peu fort. Hein.
Ah, on a entendu dans certaines interviews le mot mafia.
Je pense que c'était fortement ironique, mais je ne m'avancerai pas.
Ouais. Mais non, il y a un esprit de... Alors, je ne sais pas si on peut dire... D'abord, qu'est-ce qu'un esprit de corps, je sais. Si vous évoquiez par là une certaine solidarité entre les membres, alors est-ce que la solidarité est indéfectible? Est-ce qu'elle est, totalitaire? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Non, moi, ce que j'observe, c'est que les anciens de l'ENS sont extrêmement solidaires, s'apportent beaucoup mutuellement, discutent beaucoup des sujets en commun. C'est-à-dire que c'est une institution assez démocratique, où les sujets sont discutés en commun. J'allais dire, les décisions sont prises pratiquement à l'unanimité, je dirais, où tant que quelqu'un, en tous les cas, n'est pas d'accord, on continue à discuter. Donc, c'est ouvert au débat. Il y a beaucoup de débats. Moi, je vois passer les mails. En tous les cas, les débats sont très, très bien organisés entre les membres du bureau et les administrateurs. Donc, non, mais je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un esprit de corps, vraiment. Mais en tous les cas, je dirais qu'il y a une très grande solidarité, ça, c'est sûr.
D'accord.
Ce qui rend d'ailleurs l'association et l'école extrêmement attachantes.
Très bien. Maëlys, une ou deux questions?
Moi, j'avais une question aussi. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des projets de l'association, notamment la journée parcours au mois d'octobre? Est-ce que l'association des anciens participe?
Ah oui, oui.
Oui,
oui. Aurore m'a dit qu'elle était très investie là-dedans. D'ailleurs, si Aurore, tu m'entends, je te salue.
Big up à toi, Aurore.
Non, Aurore m'a dit qu'elle était très investie, que ça avait lieu le 23 octobre, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça, 23 octobre. Ouais. Il y aura une soirée, la soirée vieux après.
Vous avez peut-être vu les affiches un peu partout dans l'ENS.
Alors moi, j'ai un peu mal réagi par rapport au terme vieux. Et elle m'a dit non, mais vieux, dans le langage... normalien, c'est extrêmement affectif. Donc, il n'y a pas de connotation, j'allais dire, de ségrégationniste ou quelque chose comme ça. Pas du tout.
Ah, pas du tout.
Non, c'est au contraire extrêmement respectueux. Et elle m'a dit, d'ailleurs, si tu veux te joindre à la réunion, tu peux, il n'y a pas de souci. Au contraire. Sur les autres projets, je dirais que on a trois grands projets. On a un projet, j'allais dire... De rapprochement intensif avec le projet alumni de l'école. Ensuite, on essaie de se rapprocher assez activement des autres associations.
Oui.
Donc de l'ENS Ulm et de l'ENS Cachan. Stany Lorsivray était très, très active par rapport à ça, et je sais que Christine Debuzon aussi, qui est la nouvelle présidente. Donc, ça fait deux grands projets. On a un projet aussi. La question qu'on se pose, c'est par rapport à notre système d'information. Est-ce que ne devrions-nous pas, utiliser le système d'information des autres associations?
Oui, dans l'école. Avec.
Pourquoi pas?
Ouais.
Voilà, donc c'est une question qu'on se pose. Et puis, on a les projets aussi. Ah oui, on a les projets de mémoire des anciens. Donc ça aussi, ça fait partie des onglets que vous pouvez trouver sur notre site, la mémoire des anciens, qui est très très bien animée par Daniel Alloin, où est retracée la mémoire, en quelque sorte, des anciens qui ont marqué l'ENS et l'association. Donc vous pouvez retrouver ça. Il y a aussi le projet de numérisation des anciens bulletins de Saint-Cloud, Fontenay-aux-Roses, qui est entrepris par Daniel Alloin. Et donc, les projets vont être d'ailleurs, les bulletins numérisés vont être joints à ceux des ouvrages de la bibliothèque de l'ENS, la bibliothèque des cartes.
Alors, vous avez mentionné la mémoire.
J'ai pas fini, c'est que vous avez des projets aussi que nous finançons lorsque il s'agit de projets culturels.
D'accord.
Et donc, nous prenons une participation dans les projets culturels qui sont animés par des étudiants.
D'accord. Bah, c'est bon à savoir, ça, pour les autres associations.
Enfin, on n'a pas beaucoup d'argent, mais un petit peu quand même. Mais on peut vous encourager dans ce domaine.
Très bien. Alors, vous avez mentionné la mémoire des anciens.
Oui.
Ce qui nous offre une superbe transition vers la dernière partie de cette émission, puisqu'on va jouer un petit blind test spécial JDR.
Mais vous avez dit que vous seriez gentil avec moi.
Hein. Ah oui, il n'y a pas de souci.
Alors, le public peut vous aider.
Les voix des anciens.
Alors, on va écouter une première voix. Enfin, on va commencer par une devinette facile pour se mettre en selle.
Oui, ça me fait plaisir de revoir Ayam. Mais j'aime bien aussi dans les plus jeunes, Youssoupha. Oui, j'aime bien. Et puis après, Stromae, bien sûr, ça va être formidable. Et Section d'Assaut aussi. Je trouve qu'en plus, ils disent beaucoup de choses politiquement sur la situation de la France et de la situation des jeunes en France. Et que c'est pas si fréquent parce qu'ils le font avec finesse et intelligence.
Alors, félicitations, vous avez trouvé avant même que l'extrait se finisse.
C'est Aurélie Filippetti.
C'est donc bien Aurélie Filippetti.
Ancienne ministre de la Culture.
Tout à fait.
Exactement.
Et ancienne normalienne d'ici.
Exactement.
Alors, on va maintenant écouter la voix de la normalienne la plus célèbre au sein de Transistor, en tout cas, puisqu'on lui voue presque un culte. J'aurais bien aimé mettre un extrait plus long, mais la loi nous l'interdit. Est-ce que vous avez deviné qui c'était ?
Bah écoutez, on m'a dit son nom plusieurs fois, mais...
Alors, dans le public...
C'est Christine !
Christine !
Alors, oui, c'est Christine.
Christine and the Queens.
Héloïse Letitia.
Héloïse Letitia, de son petit...
S'ouvre d'applaudissements, voilà. Mesdames et messieurs. Oui, alors c'était Cripple, un extrait de son album Chaleur humaine. Vous pouvez écouter une émission qu'on lui a dédiée à Transistor, voilà, qui s'appelle... Comment ça s'appelle ?
Opération Christine,
Opération bien sûr. Christine, tous en cœur, bien sûr.
Dans un tout autre registre, on va écouter la voix d'un normalien un peu plus vieux, mais jeune académicien, et qui est aussi très médiatique.
Alors on me dit, oui, Internet, il ne s'habitue pas à la modernité. J'ai l'air, si vous voulez, dans ce monde, d'une espèce de jacouille. Peut-être que mes mémoires, ça devrait être les mémoires de jacouille. J'arrive, je ne comprends rien, je n'ai pas de portable, je ne me sers pas d'Internet, etc. Bon, d'accord, mais...
Moi, je le connais.
C'est
Phil Cockcroft.
Oui, Alain Finkielkraut.
Dans une interview avec Marc-Olivier Fogiel, donc il se décrivait comme un espèce de jacouille, voilà, je cite. Maintenant, saurez-vous deviner la voix de ce normalien un peu inclassable, on peut le dire.
Moi, j'ai toujours été sensible au fait que normalien et gauchiste, enfin, ça pouvait faire un bon ménage. C'est dur à comprendre aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que s'engage autant que nous nous sommes engagés à l'époque, on ne peut pas en même temps réussir ses études, et ben si. Eh bien, on pouvait à la fois être engagé de façon si folle que nous l'avons été, et en même temps lire Althusser ou s'intéresser à la littérature. C'est ça que je garde de mes 20 ans. C'est le fait, finalement, que même si nous avons été folles dingues, nous n'avons pas été cons.
Alors, vous m'épatez, parce que vous devinez au bout de deux mots. Oui, alors effectivement, c'était Gérard Miller.
Psychanalyste, professeur, réalisateur, écrivain, entre autres, qui a aussi donné une interview à Transistor. Donc, on salue ici Caroline, qu'il avait invité à l'occasion du quatrième interview de Il y a une vie après normale, que l'on peut réécouter sur le site.
C'est un psychanalyste, mais par rapport à la discussion qu'on a eue tout à l'heure,
oui.
Je ne suis pas sûr qu'il soit de la tendance Jacques Lacan, structuraliste. Lui, il est plutôt freudien un peu.
Oui, non, mais c'est...
Je veux bien vous croire.
Je ne connais pas trop les subtilités.
On va rester un peu encore dans les archives de Yvan et avec un extrait du tout premier numéro, en fait. Alors, c'est l'occasion de voir si vous avez bien révisé vos classiques.
Quand j'avais une hebdo sur France Culture, je trépignais en attendant la suivante. C'est pareil à la télé. Quand je sors dimanche soir, je ne vois que les problèmes qu'il y a eu dans l'émission et je me dis, ah, si je pouvais en avoir une demain, on pourrait les régler. Etc. Et là, la radio tous les jours, moi, c'est une forme d'hygiène professionnelle aussi. Hein. Vous êtes dedans jusqu'au cou. Et voilà, quoi. Et quand on se repose, on se repose.
Est-ce que vous avez deviné ?
Non.
Alors, dans le public ?
Il s'appelle Nicolas.
Nicolas comment ?
Nicolas
Bravo.
Ah, oui, oui, oui.
Un bon point pour le public. Enfin, c'est deux maintenant.
C'est alors, l'ancien patron de Libération.
Oui, tout à fait. Il a longtemps tenu la matinale sur France Inter aussi.
Un petit dernier pour la route.
Ça arrive quelquefois, très très rarement dans la vie d'un auteur, mais ça peut arriver qu'il soit stupéfait parce que même ses personnages lui imposent de dire ou de faire. Si un personnage que nous avons créé doit être entièrement vivant, il faut qu'il ait un inconscient. Cet inconscient, l'auteur ne doit pas le connaître. Donc la seule façon de donner vie totalement vie à un personnage, c'est celle-là, que par moment, dans l'intuition directe du personnage, c'est lui qui a trouvé la bonne voie.
Vous avez trouvé.
Non, mais vous avez dit que vous seriez gentil avec moi, donc c'est pas la peine.
Le public va vous aider. Et quelqu'un a trouvé ?
Oh là là. Oui, c'est presque, je l'ai entendu. C'est Jean-Claude Carrière.
Ah oui.
Écrivain, cinéaste. Oui, tout à fait. Et entre autres, c'est scénariste du Tambour qui a reçu la Palme d'Or à Cannes 79, le film de Schlendorf.
Alors, notre émission prend fin. On va remercier l'Association des Anciens et en particulier Gilles Cotton de s'être prêté à l'exercice de l'interview. En espérant que cet entretien aura pu vous inspirer à rejoindre l'Association des Anciens, à devenir parrain ou filleul.
Il faut
rejoindre l'Association des Anciens.
Absolument.
On se retrouve quant à nous dès le mois de mai pour un nouveau numéro de Y'a une vie après normal. Mais tout de suite, retomber en enfance avec les Gaunes, mais avant un journal.
Merci Maëlys, merci Agère. Merci donc aussi à celui qui a accepté de venir présenter finalement cette association des anciens. Juste avant la dernière émission de la journée, juste avant les Gaunes, et juste avant donc de retrouver encore une fois Thomas, accompagné cette fois de ses quatre fenotes et leurs invités, un dernier flash info pour ne pas perdre une miette de ce qui se passe aujourd'hui. Céline, à toi l'antenne.
Oh, bonjour quoi. Bonjour Corto, bonjour à tous. Alors on en parle depuis ce matin, ce qui fait l'actualité aujourd'hui, ce sont bien sûr les commémorations officielles du centenaire du génocide arménien qui a fait 1,5 million de victimes. François Hollande était aujourd'hui à Erevan, dans l'une des plus vieilles cathédrales du monde. Il a promis aux Arméniens de ne jamais oublier le génocide, à l'instar du peuple arménien et des autorités religieuses qui ont procédé hier à une cérémonie de canonisation des victimes du génocide, toujours non reconnue par Ankara. François Hollande est d'ailleurs l'un des rares chefs d'État à avoir été invité, alors même que hier, l'Allemagne a déclaré reconnaître sa co-responsabilité dans le déroulement du massacre, ce qui n'est toujours pas le cas du gouvernement turc actuel. Ce dernier a d'ailleurs choisi de célébrer aujourd'hui l'anniversaire de la bataille des Dardanelles et continue de nier l'intention exterminatrice à l'œuvre contre la population arménienne. On vient également d'apprendre que le Pentagone aurait été victime d'un piratage informatique qui viendrait de hackers russes. Cette information a été révélée par Ash Carter, qui est secrétaire d'État à la défense américain. On ne connaît pas encore l'ampleur ni la nature des intrusions. L'actualité en Europe, c'est le sort des migrants échoués sur les côtes italiennes. Hier, à Bruxelles, un sommet européen s'est tenu, avec pour but de trouver de nouveaux développements au dispositif Triton. L'Europe a décidé de nouvelles mesures logistiques de contrôle, de surveillance et de lutte contre les trafiquants d'êtres humains, allant même jusqu'à envisager des opérations militaires contre les embarcations des passeurs. Amnesty parle cependant d'insuffisance lamentable après la fin du sommet, qui se contente encore d'un compromis minimal en guise de réponse à la crise migratoire. Pas d'accord élargi en effet sur l'accueil des réfugiés. C'est aujourd'hui à Riga que se sont tenues les négociations autour du refinancement de la dette grecque. Un sommet de l'Eurogroupe qui avait pour enjeu le déblocage d'une tranche d'aide de 7 milliards d'euros à destination des Grecs. Mais les créanciers d'Athènes avaient prévenu. Aucun accord ne sortirait de ce sommet, annoncé pourtant comme déterminant. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est moins le procédé de transfert lui-même que la question de fond des réformes à mener en Grèce. On se trouve toujours devant un programme anti-austérité d'un côté, qui s'affronte au principe d'économie budgétaire des créanciers d'Athènes. Europe encore, Europe toujours, l'UE a aujourd'hui autorisé la commercialisation et l'importation de 17 OGM pour l'alimentation humaine ou animale, laissant cependant aux membres de l'UE la possibilité d'interdire leur utilisation sur les territoires nationaux. Paris hausse le ton contre l'Indonésie par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui réclame un geste de clémence envers Serge Atlaoui, un Français arrêté et condamné à mort pour trafic de drogue. On a appris que les préparations des exécutions de 10 personnes seraient en cours dans le pays. François Hollande a fait une déclaration il y a 2 heures en disant, je cite, « tout faire pour que l'exécution n'ait pas lieu ». En France, ce sont les 5 attentats déjoués qui font la une de l'actu, et en particulier celui de dimanche dernier à Villejuif. Sid Hamed Glam, c'est le nom de l'étudiant algérien de 24 ans arrêté par la police et dont la garde à vue a été prolongée pour 6 jours. Il va être présenté aujourd'hui, enfin ce soir, à des juges d'instruction en vue d'une mise en examen. La police est également à la recherche de ses complices avec lesquels il aurait projeté un attentat contre une église dans la banlieue parisienne à Villejuif. Le ministère de l'Intérieur recommande une surveillance accrue des lieux de culte, tandis que l'Italie annonce l'arrestation de 19 personnes soupçonnées de terrorisme et de liens avec Al-Qaïda. Enfin, on termine par un détour à Clermont-Ferrand. C'est ce soir à 19h30, après la journée de la radio donc, qu'une marche est organisée contre le sexisme ordinaire et le harcèlement de rue. Elle est organisée une semaine après l'agression d'une étudiante de 21 ans, giflée en pleine rue par deux hommes parce qu'elle portait une tenue trop courte selon eux. Cette manifestation veut réunir toutes les femmes, féministes ou non, qui veulent dire leur ras-le-bol du sexisme ordinaire et du harcèlement.